bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Léla Kadorou-Dadi, Daniel Morin,
Paul
Mula, Jérémy Prédville, tout à l'heure Tanguy Pastureau et nos invités Virginie Ledoyen et Ludivine Sagnier. Bonjour mesdemoiselles, merci de venir à ce micro nous parler de Rémi sans famille. Ça sortira ce mercredi, un film réalisé par Antoine Blossier. Alors, il est écrit sur l'affiche d'après l'œuvre d'Hector Malo. J'ai presque envie de dire c'est plus d'après le dessin animé, Rémi sans famille.
Ah, au départ, c'est
au
d'après,
début, c'est oui,
d'après le livre. Mais
je suis ton père. Des esprits sont là, fantômes, et tu es avec moi.
Jimmy est avec nous.
Au début, au début, ça part d'Hector Malo. C'est devenu un dessin animé que des générations ont suivi. Il y a, on va dire quoi, la génération des 30,
c'est
des
la trentenaires, mienne, un peu plus de 30.
Non, des 25. Ouais. Alors si c'est la tienne, ok.
Ah, non.
Non, mais le dessin animé japonais, c'était un carton.
Ouais.
C'était un carton toutes les semaines. Ça faisait
sur
pleurer.
Sur 5, je crois. C'était...
Ça faisait pleurer des foyers et des familles.
Et en fait, on a appris que...
Vous êtes plus jeune.
On a appris que le dessin animé, en fait, il était passé dans les mains du studio Ghibli. Et que les techniciens, voilà, toute la bande de Miyazaki avait participé à la création de ce dessin animé.
Je savais pas. Ah ouais, ok, d'accord. Belle info. En tout cas, c'est vrai que si on prend l'œuvre d'Hector Malo, il y a quelques épisodes initiatiques qui ne sont pas dans le film, mais qui là aussi étaient partis dans le dessin animé. Ça devient, c'est justement ce parcours de ce Rémi joué par Malone Paquin, qui est cité parce qu'il est assez impressionnant de justesse et de.
Il est formidable.
Il est bien comme il faut. Daniel Auteuil, toutes les deux. Jonathan
qui est très juste aussi.
Kai, pardon.
Daniel Auteuil qui est très très juste aussi. Daniel Auteuil.
Oui, mais il n'y a pas beaucoup de fautes de goût dans ce film, loin de là. Jonathan Zakaï, donc Jacques Perrin aussi présent dans ce film. On va en parler évidemment. Mais d'abord, concernant la vie et l'œuvre de nos invités, voici notre interro. Pose des questions. Vous ne faites que dire si nos camarades ont bon ou pas. Bah non, on va commencer avec Ludivine, tiens.
Ah bon.
La célébrité de Ludivine Sagnier ne l'empêche pas de faire quelque chose.
C'est court, ça?
Ah, pas loin.
C'est aller à la pharmacie.
Sortir dans la rue tranquillement, vivre normalement, emmener ses gamins à l'école.
Un symbole de vie normale, justement.
De se battre.
Elle dit, je suis trans.
Prendre le métro,
Exactement. Prendre le métro. Personne ne vous reconnaît dans le métro?
Ben non, jamais. Oh. Enfin, en même temps, je ne prends pas souvent.
C'est honnête de le dire.
Non, mais ça m'arrive très rarement qu'on me reconnaisse dans le métro, ouais.
Mais où est dans la vie, sur le trottoir, dans la vie
de tous les jours ? J'en sais rien, je ne vais pas chercher la lueur de reconnaissance chez tout le monde. Donc peut-être qu'il se trouve qu'on me reconnaît, mais en tout cas ça me frappe pas aux yeux, quoi.
Et personne ne franchit la bulle, n'ose venir vous voir,
jamais.
Un selfie, un autographe.
À part devant la maison de la radio, non.
Question concernant Virginie Ledoyen, elle a une phobie, petite phobie.
Les araignées.
Exactement.
Oh là là.
J'attendais la fin de la question.
Très banal, je vous l'accorde.
Alors ouais, non, mais tout le monde n'a pas peur des araignées, mais c'est à quel point vous ça dépend de la taille ou c'est même la plus petite.
Pas du tout les araignées, quelle que soit leur taille. Alors, il y en a pas mal chez moi, malheureusement.
Mais c'est signe d'une maison saine, non, c'est pas...
Tout à fait, oui. Alors ça me rassure beaucoup.
On a l'impression que tu parles depuis les toilettes, Tom. C'est...
Oui, alors, ça vient beaucoup le micro qui est un peu cassé. C'est vrai
je sais pas, on a un souci aussi avec votre micro, Virginie, on vous entend pas très bien.
Donc,
non, mais rapprochez-vous bien.
Bien sûr.
Parlez dans le micro.
Exactement.
D'accord.
Non.
Non mais je par rapport à mes enfants, je peux plus hurler à chaque vision d'araignée.
Sinon vous leur transmettez.
Oui, et puis c'est grotesque. Ils ont
non,
puis
même.
Puis je leur transmets ma peur. Donc je prends vraiment beaucoup sur moi, mais j'ai horreur de ça. Ouais. Horreur.
Ludivine Sagnier, vous suivez un régime, paraît-il, vous avez infirmé ou confirmé, lequel suit-elle?
Sans gluten.
Exactement.
Vu
la tête que vous faites, c'est faux.
Tu manges pas de gluten?
Ah, c'est faux. Bon, alors.
Ah bon, d'accord.
Elle ne se nourrit exclusivement que de gluten.
Non, j'essaye de faire attention.
Vous avez dit que c'était pas par idéologie, c'était par goût. Ça n'avait pas le même goût.
Oui, non, mais c'est vrai que j'aime bien le pain sans gluten. C'est plus par gourmandise.
Quand on va de chez vous, il y en a un qui fait des paninis dingues sans gluten et que vous adorez ça.
C'est vrai. Comment vous savez ça?
Parce que vous l'avez dit dans Cosmo, et je lis Cosmo.
Oui, c'est vrai, non, j'adore ça, mais c'est pas par... le gluten me réussit également, mais c'est vrai que j'essaye de limiter.
Je voulais dire, genre, ça fait du bien au bide, quoi, pour être clair.
Non, ça me fait rien, moi. Ça me fait rien de particulier, mais pour mes enfants, j'avoue que je fais un peu attention.
D'accord, parfait. Également attention à quoi, aux produits que vous mangez, enfin les produits bio, à la...
Ouais, tant qu'à faire.
À suivre les saisons, tant qu'à faire aussi.
Ah oui, les saisons, c'est important.
Ouais. Ah, c'est bien, maman. Virginie Ledoyen souffre d'un léger handicap.
Ah. Elle est myope.
Qui disparaît.
Il manque une jambe.
Exactement. Ouais. Putain. Mais j'ai même pas fini.
C'est parce que j'avais déjà lu que dans certains films...
Elle est myope et astigmate.
Ah oui. Maintenant, je suis plus qu'astigmate. Ah. Ouais. Je me suis fait opérer.
D'accord.
J'étais très très myope. Et enfin bon, c'est pas très grave, mais.
Non, mais ça veut dire que vous tournez. Non, mais vous tournez sans lunettes,
ouais,
en fait.
Oui, je tourne sans lunettes. Les rares fois où j'ai.
Je sais pas si vous tournez, par
contre. C'est pas qui elle donne la réponse.
C'est bien, mais des fois.
Non, mais Daniel, tu n'es pas à l'antenne non plus.
Ah, bah très bien. Ah, bah là, tout va très bien, là.
Et effectivement, quand je me suis fait opérer donc de la myopie, c'est vraiment lourde. C'est-à-dire que dans l'heure qui suit,
ça s'opère comment ?
C'est au laser. Mais vraiment, c'est instantané.
C'est vrai ?
Et on reste une heure dans la salle d'attente. Et puis ensuite, on voit. Mais on est en voiture et on voit écrit les noms des rues, des avenues.
Je sais pas vous, mais moi, j'ai eu un spleen parce que j'étais opérée comme vous. Et le premier matin où on se réveille et où on voit tout,
sur le réveil,
on voit même la personne qui est à côté de vous.
Oh non.
Mais je veux dire, non, on la voit distinctement.
La différence, c'est qu'elle était à jeun quand on l'a choisi. C'est ça la grosse différence.
Non, mais on la voit distinctement. Alors qu'avant, on avait un temps d'éveil, on avait un petit temps d'accommodation. Après, on mettait ses lunettes et on pouvait voir la personne. Voilà, et je trouve que c'était hyper violent. Moi, j'étais hyper nostalgique. Après, je me suis dit, pourquoi je me suis fait opérer? J'aurais pas dû.
Ouais,
c'était bien d'être
mieux. Surtout que les gens qui voient bien vous voient comme ça dès le matin.
C'est ça.
Imaginez pour Daniel, alors.
Pourquoi, à propos de Ludivine Sagné, cette fois-ci, pourquoi Thierry Frémaux,
il était trop grand. Je sais pas, je tente de répondre puisque tout le monde répond vite.
Ouais, c'est vrai. Lui a dit, je vais t'envoyer au festival de l'Alpe d'Huez.
Ah, je sais.
Parce qu'elle aime le skier?
Non.
Parce qu'elle aime la comédie?
Non. Parce que?
Elle aime la comédie?
Parce qu'elle a beaucoup d'humour.
Oui, mais c'est pas pour ça.
Elle allait être coup de projecteur à l'Alpe d'Huez?
Non.
Je peux répondre.
Non, je sais que c'est vous. Je sais que vous êtes au courant.
Faire des petits reportages
pour quitter Paris. Pour quitter Paris.
Non, ça se passait à Cannes, au festival de Cannes. Elle était jurée au festival. Ouais. Et Thierry lui
elle
dit.
Était très drôle à Cannes.
Si vous convaincre les autres.
Si vous connaissez Thierry, il a un humour très très particulier, très classe. J'adore ce mec. Il lui a dit, je vais t'envoyer au festival de l'Alpe d'Huez.
Qu'est-ce que t'as
fait marrer tout le temps.
Non, mais si vous savez.
En
quoi consiste le
festival de la comédie? De la comédie, oui.
Donc,
elle est drôle.
Pourquoi?
Non, pour jouer de la comédie.
Pourquoi vous l'étiez dans le
jury? Pour être jury.
Arrêtez
pour être
de croire que je suis drôle, c'est
non.
pas ça du tout.
Non,
parce qu'elle est sinistre, qu'elle ne fait que des films sinistres.
Tu vas apporter un peu de hauteur.
Pour être présidente du jury?
Mais comme si je vais t'envoyer là-bas, comme pour te soigner. Te soigner de quoi?
Ah, pour l'air marin. Pour l'air marin.
Non. Ah, elle était dans le mal et du coup, pour se marrer.
Parce qu'elle faisait que pleurer.
Non, parce qu'elle était très.
Parce qu'elle avait toujours. Bonne réponse de Jérémy Crépille.
Avec la voix de Virginie Ledoyen.
Oui, mais on communique beaucoup.
Ah oui, très bien.
Parce que vous pleuriez beaucoup au Projo.
Ben, c'est vrai que je suis assez bon public et du coup, voilà, je suis très réactive et j'arrêtais pas de sortir de la salle. À chaque projection, je sortais en larmes et Thierry m'a dit, tiens-toi, sinon je t'envoie à la punition.
Tiens-toi. J'aime bien, tiens-toi, sinon je t'envoie à la punition. Je t'envoie rire ailleurs. Et on en profite pour saluer Thierry, ce grand Thierry Frémaux qui est un grand monsieur du cinéma.
Oui. Ouais.
Pour en revenir à parler de Rémi sans famille, on peut pas voir le film sans pleurer, c'est pas possible.
Ouais. Non, mais c'est bon de pleurer au cinéma. Moi, je vais vous raconter un truc, si je peux me permettre, si j'ai l'espace.
Sans vouloir gêner.
En fait, il y a eu une avant-première au Rex et j'ai voulu emmener mes enfants. Et je suis venue avec ma fille de 4 ans. Et donc, je me suis dit, ça va être un peu limite, je me prépare à sortir, etc. Et en fait, à un moment, elle pleurait parce qu'il y avait des loups. Et je lui dis, chérie, c'est une histoire. Et je la retourne vers moi et je lui dis, c'est une histoire. Elle me dit, mais laisse-moi, c'est au cinéma que j'ai peur, c'est pas dans la vie. Ah et oui. Donc,
c'est génial.
Ouais. Et j'ai trouvé ça
4
incroyable.
4 ans, quelle maturité, ça
bah,
fout.
Elle faisait génial. Vraiment la distinction, en fait, et ça l'intéressait. Elle voulait pleurer parce qu'elle avait peur, mais ça ne l'intéressait pas de ne plus pleurer.
D'être rassurée, c'est ça.
Non, ouais, voilà, elle s'en foutait de moi, elle voulait pleurer.
Elle voulait profiter de son film.
Exactement, ouais. Et j'ai trouvé ça dingue, je me suis dit, c'est dingue comme les enfants, en fait...
Font la part des choses, ouais.
Moi, exactement. J'aurais plus peur d'un loup dans la vraie vie.
C'est vrai. Tu as tort, ils sont pas forcément toujours agressifs, les loups, mais on peut pas voir Rémi sans famille sans pleurer.
C'est ouais. Ouais, mais c'est ça qui est bon. Et moi, je voudrais juste dire un truc, c'est que par rapport.
Si vous avez un peu d'espace.
si j'ai un tout petit peu d'espace, vous me dites après si tu peux. Hein. Voilà. La version d'Hector Malot est quand même assez difficile, etc. Le dessin animé, ça raconte aussi que des déconvenues, que des choses dures à traverser. Et en fait, le film, je trouve qu'il a, il a été quand même assez modernisé.
Un peu plus positif, ouais.
Voilà. Ouais. En fait, c'est pas que des larmes.
La fin était déjà heureuse pour Malot. Elle le reste dans le. Oui.
Après, on pleure dans le film aussi parce qu'on est ému. Ouais. C'est pas nécessairement des pleurs de tristesse. D'abord, pleurer, c'est un peu exutoire.
C'est quoi la nuance pour vous entre
l'émotion
et. Par exemple,
on pleure quand il est heureux. Ouais. On pleure ouais. quand.
De joie.
On pleure de joie.
Quand je vois arriver le matin, Nagui, je pleure de joie.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que comme c'est quand même aussi un vrai parcours initiatique, c'est un film d'aventure, c'est un petit garçon qui, effectivement, a une vie très difficile, très compliquée, c'est un orphelin, il n'y a pas pire pour un enfant, il n'y a pas pire pour qui que ce soit, et il s'en sort. Et il réussit, et il crée sa propre famille, et il rencontre des gens intéressants, et il se découvre un don.
Oui. Ça, c'est avec le recul. Mais quand on est dans l'histoire, on se dit, chaque fois qu'il y a quelque chose d'heureux qui lui arrive, il y a soit une mort, soit une destruction, soit une autorité qui vient casser ça pour reconstruire.
Oui, mais
ensuite,
si chaque fois qu'il y a une mort, une destruction, il y a un événement heureux qui fait qu'il dépasse.
C'est ce que j'ai dit pour reconstruire derrière. Absolument.
Voilà.
Absolument. Dernière question pour Virginie Ledoyen. À partir de quand a-t-elle décidé d'arrêter des contrats avec des marques de.
Par rapport aux animaux,
parfumerie.
Peut-être
Non.
Non.
On s'en fout. Vu la tête qu'elle a faite, là, non.
Suite à des castings qui ont fait qu'elle était trop identifiée avec une marque de cosmétiques.
Exactement.
Non, mais c'est vrai que c'est un vrai problème quand t'es
un réalisateur qui vous a dit, moi, j'ai pas envie de voir la fille de la pub dans mon film, c'est ça?
Ouais. Oui. Alors après, c'était aussi une marque très 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 populaire et très
L'Oréal,
massive.
Non ouais.
Ah bah, je sais pas. On a le droit de dire les marques. Je sais jamais qu'on a le droit.
On a le droit de tout dans cette émission.
Non, c'est
pas
chance.
Les fans de moi, c'est difficile. Mais sur le service public.
C'était il y a plus longtemps qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. C'est quand même beaucoup plus fréquent la publicité, les acteurs, etc. Mais effectivement, il y avait un cinéaste que j'aimais beaucoup et qui m'a dit je n'en peux plus. Ouais. De te voir
bah dites-le,
le soir dans ma cuisine.
Vous viviez avec lui.
Non,
elle lui faisait à manger, ça n'a rien à voir.
Je suis cuisinière aussi.
C'était Tefal, c'était pas L'Oréal.
Voilà. D'accord. Non, mais c'est vrai que c'est des images très fortes et puis c'était très marqué. Et que quand même
c'est
un acteur.
C'est paradoxal, si je peux me permettre, parce que elles sont des images marquées, mais très glamour, très
qui mais vont. Estampillé, à mort.
Qui, ouais, mais ouais, estampillé, mais qui apporte au star system aussi. Il y a même des montées de marche, à Cannes, L'Oréal.
Je l'ai fait pendant 10 ans, donc.
Mais c'était une époque où c'était super mal vu.
Et puis c'était très mal vu à l'époque où je le faisais de faire de la pub.
Oui. Et puis aujourd'hui encore, moi je me dis que la problématique, c'est que si je vois une comédienne toujours hyper fardée, belle, si demain je dois la voir dans un film social où elle incarne
avant ou après l'opération des jeux
où elle incarne je ne sais pas une caissière ou je ne sais pas quoi, ben moi je vais avoir du mal, l'illusion elle va pas fonctionner et moi je trouve que c'est justement délicat pour les comédiennes et les comédiens aujourd'hui d'être un peu porte-manteau, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les pages de magazines, parce que derrière je trouve qu'elles sont plus rares et du coup l'absence de rareté fait que derrière je suis moins en admiration devant leur art en fait. Et
ça dépend des campagnes aussi hein, moi je dirais.
Oui, ça dépend des campagnes, mais c'est vrai que le désir des metteurs en scène, hommes-femmes, ils ont besoin d'un peu de mystère. Donc quand on a l'impression que l'actrice ou l'acteur qu'on va filmer pendant quelques mois, quelques semaines, elle est partout, tout le temps, en permanence et d'une façon.
Ce qui n'est pas Virginie toujours le cas. On sait que ce sont des campagnes ciblées sur quelques semaines ou quelques périodes de l'année.
Là, on parle d'un exemple en l'occurrence.
On ne saura toujours pas qui est le réalisateur en question.
Pourquoi pas
on a cité la marque, on peut citer le réalisateur.
Non, mais parce que c'est
pareil.
C'est pas. Mais je pense que c'était assez partagé comme. Et puis c'était moins fréquent.
Alors c'était quand
Il veut tous les indices. Enquêteur.
Attends, L'Oréal, c'était. Je sais pas, j'ai dû arrêter. C'était avant 8 femmes. Ça fait 10.
J'ai dû arrêter en 2006. Enfin, je sais plus très bien, mais
le repère de Ludivine, c'est papa, papa, papa.
C'est depuis ce moment-là que je la connais.
Que vous connaissez depuis 8 femmes.
Oui.
D'accord. Reparlons donc de Rémi sans famille avec Daniel Auteuil, impressionnant dans son rôle, avec sa barbe et sa générosité, l'émotion avec laquelle il porte ce film, dans lequel vous avez chacune des classes sociales justement différentes, puisque nous parlions du regard du réalisateur. Vous êtes plutôt de la bourgeoise avec une jeune fille, Élise, handicapée, qui va accueillir justement dans une période, mais qui va être aussi un déclic dans l'histoire de Rémi.
Oui, moi je joue Madame Harper, qui est donc la maman d'une petite fille handicapée et qui rencontrera, parce que Rémi fait du spectacle de rue, et soudain elle voit sa petite fille rire. Mais vraiment rire et être heureuse et elle voit rarement sa petite fille comme ça parce qu'elle est dans un fauteuil, avec tout l'argent qu'elles peuvent avoir
et le confort.
Et le confort, c'est une petite fille qui est très seule et soudain ce petit garçon lui redonne vraiment de la joie de vivre et elle est une mère. Donc ce dont elle a envie, c'est que ce petit garçon reste aux côtés de sa fille et effectivement elles vont réussir à retrouver les vrais parents
grâce à un manteau qu'il avait lorsqu'il avait été abandonné, puisque le début de l'histoire c'est ça, un bébé est abandonné, il est recueilli dans une famille, vous êtes la maman qui recueille justement Ludivine Sagnier ce bébé et qui se comporte vraiment comme une maman, c'est-à-dire que au début votre mari dit ne t'attache pas trop et pourtant elle passe de l'autre côté.
Oui, mais bon, on apprend qu'en fait, elle avait un enfant qu'elle a perdu. Qu'elle avait appelé Rémi, et tout d'un coup, c'est un miracle pour elle de retrouver cet enfant. Alors, elle vient pas du tout de la même extraction sociale, puisqu'elle est paysanne, elle est vraiment. Avec une vache qu'elle sera obligée de vendre, la pauvre, elle est dans une situation très, très, très précaire. Et évidemment, elle s'attache éperdument à cet enfant qu'elle élève. Enfin, moi, si j'avais trouvé un enfant sur le bord d'une église, je m'attacherais aussi. Hein. Ça paraît tout normal. Donc voilà, elle élève comme son propre enfant. Et ce qui va être d'autant plus déchirant quand Vitalis va l'arracher de ses bras pour en faire un enfant, un petit saltimbanque, un apprenti.
Alors c'est pas tant Vitalis qui l'arrache.
Oui, c'est
à
le
ses
mari
bras.
Qui l'a trahi.
Le retour du mari qui se rend compte que l'enfant trouvé, eh bien, vous l'avez gardé, vous l'avez élevé.
Alors qu'il a besoin d'argent.
Alors que lui a besoin d'argent. Je sais pas pourquoi Jonathan Zakaï, il a toujours un truc au pied, c'est que ce soit dans le Bureau des légendes.
Il lui en manque un.
Il a toujours un.
Petite fragilité.
Un petit souci au pied, Jonathan Zakaï.
Il tient pas Nari du coup.
Ça lui va bien le pied beau.
Ouais, qui joue le méchant. Qui joue le méchant, et ça lui va bien aussi de jouer le méchant. Non, mais ça lui va bien de jouer le méchant, et lui voit simplement une occasion de se faire de l'argent avec cet enfant. Parce que c'est quand même ça, Rémi sans famille, c'est un gamin qui est vendu, enfin qui est loué même.
Exploité,
ouais. Ouais. Absolument.
Mais on parle d'un film qui se passe en 1890, hein, où on n'avait pas du tout, évidemment, les classes sociales étaient encore, enfin quoi qu'elles sont très définies quand même aujourd'hui, mais
encore.
Mais et les enfants étaient, ça coûtait de l'argent, quoi. C'était une bouche à nourrir.
Ah bah encore aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est 170 000.
Franchement, ça sert
aujourd'hui,
rien,
c'est 170 000 euros le coût d'un enfant. Je te jure que c'est vrai, 170 000.
Mais d'où
bah de quoi
170 000 euros le coût d'un enfant.
De 0 à 18 ans, tu veux dire
jusqu'à sa majorité.
Mais d'où si tu sors ce chiffre?
J'ai des chiffres.
Il bosse à l'INSEE, il a droit de savoir.
Il est jeune papa, il s'est dit qu'il fallait qu'il épargne maintenant.
Alors justement, cette histoire, alors vous avez joué dedans, vous êtes allé au cinéma avec vos enfants, elle parle à tout le monde. Ça se voit en famille, Ludivine Sagnier, ce genre de film.
Complètement, c'est un film qu'on partage avec toutes les générations. Et puis moi j'aime bien.
Les enfants ne pleurent pas trop non plus?
Non,
mon fils, il a pas du tout pleuré, il a 8 ans.
Oui, mais il a 28, à part.
Non, ça va. Vous vous trompez, Nagui, il a 32 ans. Non, il a 8 ans, il l'a vu deux fois, il a pas pleuré.
Il a pas pleuré.
Mais ce qu'il a retenu du film, c'est la bravoure du petit garçon. Il était le courage.
Il s'est identifié un peu à lui aussi.
Oui, je crois. Ouais. Et parce que c'est quand même c'est aussi un film d'aventure. C'est un film qu'on a tourné dans des paysages sublimes en France.
C'est du grand cinéma. La photo est dingue, la réa, les costumes, tout.
Donc, en l'occurrence, mon fils, lui, il a vu Les spectacles, l'immensité, les paysages de l'Aubrac, le petit garçon qui s'en sort, le petit garçon à qui on révèle un don, quand même, qui est celui du chant, qu'il aurait pu passer totalement à côté. Donc il y a plein de lectures du film, et puis c'est un film très patrimonial qu'on peut voir grand ou petit, et puis qu'amène aussi des conversations avec ses enfants ou ses petits-enfants.
C'est vrai, Ludivine Zani, que sur le tournage, le chef-op criait des indications à Rémi. À Malone, l'acteur qui... Malone Paquin. Et vous lui avez dit, non, n'écoute rien, fais comme tu le sens. Vous
c'est
l'avez coaché à votre manière,
en fait. J'étais un petit peu autoritaire. Non, en fait, il y avait... Donc,
ne me lâche pas du regard, vous lui avez dit.
Oui, il y avait le réalisateur, mais c'était pour une scène particulière, c'est justement où la scène...
De déchirement.
Voilà, et on était très loin l'un de l'autre, donc on était quasiment à 50 mètres l'un de l'autre, donc c'est très difficile de garder ce lien-là. Et donc, il y avait la coach qui lui donnait des indications, le metteur en scène, et je lui ai dit, tu n'écoutes rien, et il doit y avoir un fil invisible entre toi et moi, que personne n'a le droit de couper.
Mais c'est génial cette indication, parce qu'on en a beaucoup parlé dans cette émission avec des acteurs, des actrices, des réalisateurs qui parlaient justement de ce regard, de ce lien, de l'écoute, et que l'écoute aidait au jeu plus que toutes les indications possibles et imaginables. Simplement écouter, suivre et jouer en étant dans les yeux de l'autre.
Oui, c'est une question d'énergie, c'est-à-dire que les énergies, c'est des vases communicants, donc effectivement, il faut toujours être connecté l'un à l'autre, et dans un rapport mère-fils, etc., c'est d'autant plus important. Et ça marchait, en fait.
Et ça marche, oui. C'est ce que je voulais dire.
Et ce que je veux dire aussi, c'est que Malhomme, il était
Vous avez un tout petit peu d'espace.
Si, encore un petit peu. Il était tellement incroyable qu'après, j'avais un autre projet sur un film et le réalisateur me dit, je cherche un gamin de 12-13 ans, et je lui dis, mais moi, j'en connais un. Il s'appelle Malhomme Paquin, et il me dit, figure-toi que c'est un de mes finalistes. Et on a fait le film ensemble.
Julien Rapneau,
absolument, avec François Damiens.
Aucune des deux ne veulent citer les autres réalisateurs, c'est quand même fou ça.
Non, mais
c'est dans Fourmi, hein, c'est ça?
Ouais.
Julien Rapneau. Tom Villa, ce film qui sort ce mercredi 12 décembre, Rémi sans famille, c'est un succès signé.
Ça va être un succès, mais c'est vrai qu'on pose les faits sur le papier de Rémi sans famille, c'est chaud, quoi. C'est-à-dire que même les Dardenne et Mylène Farmer réunies, ils n'auraient pas osé faire une histoire aussi triste.
Bon, n'importe quoi.
Non, mais si, mais c'est vrai. Non, mais quand on prend les faits, Virginie, honnêtement, déjà l'idée de départ. Rémi, c'est un enfant abandonné. Bon, ça, à la limite, pourquoi pas? Ça passe. Je veux dire, ça peut arriver à tout le monde. Qui n'a jamais abandonné, je sais pas, un chewing-gum, un chien, un enfant, une belle-mère sur l'autoroute, hop, voilà. On a oublié mamie à la station Total de Saint-Arnoult. Non, c'était pas un oubli, t'inquiète. Bon, passe encore. Qui n'a jamais voulu abandonner son enfant, peut-être, parce qu'il faisait pas ses nuits. C'est vrai. Celui à qui l'idée n'a jamais traversé la tête, lève la main, tiens. Ok, une belle bande d'enculés. Très bien, c'était pour faire un test. Je rappelle la DAS à la fin de l'émission, il n'y a pas de souci. Bref, Rémi, ensuite, il est adopté. Et ça, c'est très bien. Qui n'a jamais adopté? Un chewing-gum, un chien, un enfant, une belle-mère? Non, je ne sais pas. Personne? C'était un deuxième test. Ok, très bien. Puis sa famille adoptive le vend. Et là, ça craint quand même, j'irais même. Enfin, ça craint énormément. Alors à l'époque, peut-être que ça se faisait, t'allais au marché pour acheter du lait, de tomates, des œufs, un enfant. Mais aujourd'hui, c'est quand même plus compliqué. T'imagines, tu vas sur Le Bon Coin. Alors, famille adoptive.
Quelle partie du monde, hein.
Oui, exactement. Non, mais c'est vrai. Mais si tu le fais sur Le Bon Coin, famille adoptive vend cause déménagement, enfant 8 ans propre peut servir, fait la vaisselle et range sa chambre, vaccin un jour, pris à débattre. Clairement, ça passerait pas. Mais c'est vrai que c'est de la faute de Rémi et des réseaux sociaux surtout. C'est de la faute des réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, on est choqué alors qu'à l'époque, il y avait pas Twitter, on n'était pas choqué. Et puis après, faut voir à qui ils le vendent. Un saltimbanque croisé dans un cabaret. Donc t'es dans un PMU, tu rencontres un intermittent du spectacle et tu dis tiens, j'ai plus de monnaie, je vais vendre le gamin pour me payer une binouze. Non mais c'est vrai, toi t'es gamin, tu te dis oh putain, mon père c'est devenu Patrick Sébastien en raté. Pas de cul. Non mais c'est vrai. Manque de bol, le gamin, l'intermittent il se fait arrêter et jeter en prison. Donc Rémi 10 ans, on se retrouve tout seul à la rue avec deux animaux dont un singe sapé comme Spirou. Aujourd'hui, ça ferait scandale, pas qu'un gamin soit livré à lui-même, non, ça s'appelle un pays du tiers-monde, donc ça c'est normal. En revanche, déguiser un singe, t'aurais trois associations sur le cul direct. Et les flics, ils le laissent repartir sans problème. Il y a un moment, si on prend les faits, est-ce que ça serait pas Rémi le fautif? C'est pas Rémi sans famille, c'est Rémi le chat noir. Il y a un moment, gamin, pose-toi les bonnes questions, non, c'est vrai. Et là, la suite, alors on passe notre temps à dire aux enfants de pas monter avec n'importe qui en voiture et on applaudit Rémi, ce qui trace sa route et rencontre l'amour, se retrouvant avec des aristos sur une péniche. Voilà. En fait, Émile Louis, il aurait pas dû conduire un bus, mais une péniche, et ça aurait choqué personne.
Non, quelle mais c'est vrai. Horreur. Franchement, tu fais ça aujourd'hui, ça fait la une des journaux. C'est
Émile Louis étant joué par Virginie Doyen, quand même.
Tout à fait.
Très beau, Émile Louis. France Inter, flash spécial Rémi, 10 ans, deux animaux de compagnie, dont un chien qui s'appelle Capi, a disparu. Si vous avez des informations, eh bien n'appelez pas, parce que tout le monde trouve ça tout à fait normal de laisser traîner un gamin de son âge. Bonne journée. Non, et puis c'est vrai, ça continue. L'intermittent, il sort de ce prison, il récupère le gamin, et là, les aristos de la péniche lui disent qu'il faut filer en Angleterre pour retrouver ses parents. Pas de bol, ses parents sont en fait des escrocs. Rémi arrive à se barrer, et bim, une tempête de neige, les pièges, et claque, l'intermittent meurt. Bon, bah là, plus de doute, c'est de la faute de Rémi. Non, mais c'est vrai, si après ça se calme. En fait, Rémi, c'est quand même l'enfant le plus adopté, abandonné que je connaisse. On dirait Bruno Le Maire. Même Angelina Jolie, elle trouve ça beaucoup. Allez, vous savez quoi, je vous laisse. Je vais me remonter le moral en écoutant un petit Barbara. Et bonne émission.
Non, loin de saper le moral, Rémi sans famille, au contraire, c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions, mais ce sont des émotions qui font du bien, parce que ça va chercher des valeurs en nous, et puis, je sais pas, mais ça fait aussi du bien de revoir cette histoire. Est-ce que vous êtes posé la question, Ludivine Sagnier et Virginie Doyen, de faire cette... c'est pas, on va pas appeler remake, c'est le mot, mais de remettre au goût du jour, en tout cas, cette histoire qui a tant marqué?
Bah oui, moi c'est vrai que c'était aussi en tant que mère, parce que j'ai toujours envie de partager un maximum ce qui m'a plu, ce qui m'a touchée quand j'étais enfant avec mes enfants. Et parfois, je leur aurais filé le roman d'Hector Malot, ouais. Je sais pas si ça les aurait intéressés. Là, tout d'un coup, le fait de participer à cette histoire, ça me permet... en fait, c'est pas pour des raisons pédagogiques que j'ai fait ce film.
Non, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a des valeurs...
Il y a des valeurs de transmission.
Oui, bien
et puis
sûr.
C'est du grand cinéma quand même. On est vraiment dans un film, un voyage. Il y a pas beaucoup. Moi, ça me fait penser un peu même à Harry Potter. C'est des univers très forts.
Oui, il y a du mystère.
Il y a du mystère. Il y a de l'aventure. Il y a de l'émotion. C'est pas nécessairement un cinéma qu'on fait beaucoup en France.
Clairement.
Et là, en tant qu'actrice. Tout simplement, on a envie de faire partie d'un projet qui emporte. Parce que le cinéma, c'est aussi ça. C'est aussi de s'asseoir dans une salle et de rêver, et de rire, et de pleurer aussi, parce que c'est exutoire. Donc...
Non, puis il réhabilite un petit peu l'abandon qui est très décrit.
Exactement, on oui. est bien d'accord.
Pourquoi se sortir
c'est
un film qui a des
famille,
moyens.
Chouette,
et ces moyens, on les voit à l'image, ouais. En tout cas. Ça fait
L'argent est à l'image.
Ah ouais,
c'est ça.
Et c'est le même prix dans la salle pour les spectateurs. C'est quand
même
génial.
C'est une super affaire.
Daniel Auteuil, Malone Paquin, Jonathan Zakaï, Jacques Perrin et nos invités, Virginie Ledoyen, Ludivine Sagnier. Ça sera à partir de ce mercredi 12 décembre. Rémi sans famille, réalisé par Antoine Blossier. Voici Jérémy Crédil.
Alors, Virginie, Ludivine, je vous aime, épousez-moi.
Les deux, direct.
Non, mais pardon, non, mais direct. Je suis désolé. Non, au lieu de lire le texte de ma chronique, je viens de lire le sous-texte. Bon, c'est pas grave. Ça dit, ça irait beaucoup plus vite si parfois on disait le sous-texte direct plutôt que le texte. Genre, si je dis waouh, Nagui, vous êtes super, oh là là, mais quel talent, quel patron formidable. Non, sous-texte, j'ai besoin d'argent. Bref. Salut la bande, et puis surtout, bonjour Ludivine et bonjour Virginie, épousez-moi. Je fais quand même...
pervers. Ça dit comme ça, ça fait vraiment pervers.
C'est un écho. Non, je fais quand même le métier le plus cool du monde. Parce que quand on y pense, aujourd'hui je suis payé pour dire bonjour Virginie et bonjour Ludivine. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui m'a dit au téléphone, Jérémy, la semaine prochaine tu vas être assis à la même table que Ludivine et Virginie pendant 1h30 et en échange on va te donner de l'argent. Je crois que c'est la définition du paradis, parce qu'il y en a qui feraient la même chose. Parce que c'est pas n'importe quelle Virginie ou n'importe quelle Ludivine. Alors, c'est pas juste Ludivine et Virginie. Ludivine et Virginie, ça fait nom de sitcom. Jonathan et Jennifer, Arnold et Louis, Léoli, Ludivine et Virginie. Non, là, c'est Ludivine Sagnier et Virginie Ledoyen. Parce que si c'était juste Ludivine Grognard et Virginie Lambéret, non mais c'est vrai, hein, qui était avec moi à l'école d'Italie à Roubaix, j'aurais beaucoup moins de pression. Attends, je vais en refaire un. Bonjour Ludivine, bonjour Virginie. Excusez-moi, je savoure. D'ailleurs, si vous voulez un café, une viennoiserie, une viennoiserie,
oui, volontiers,
comme ça,
oui, volontiers.
Bah, dites-le moi, je vais envoyer un assistant, je me sens ce pouvoir aujourd'hui.
Non. Je veux envoyer un assistant,
mais oui, mais quand j'ai su que j'allais allez enfin vous rencontrer aujourd'hui. J'ai été fou de joie, puis la joie a laissé place à la peur, l'angoisse et à des tas de petits symptômes que d'aucuns qualifieraient de gastro-entérite. Classe. Non, ça m'a mis une pression énorme.
C'est classe.
Pour être sûr,
c'est super classe.
Pour être sûr de... J'ai vu, les deux ont fait.
Virginie, Ludivine.
Ça démarrait bien.
Arrêtez le gluten peut-être.
Ah ben voilà, oui. Manger des fibres.
Ça aide la digestion, elle a raison.
Non, ça m'a mis une pression énorme, hein, pour être sûr de bien préparer ma chronique. Je ne suis pas venu la semaine dernière. Une absence qui est passée totalement inaperçu. Ouais. Hein. Merci les amis, ça fait plaisir de se sentir indispensable.
Ouais, bah, c'est une super semaine.
Ouais. Et je suis pas Bayrou, moi. Non, mais... non, parce que non seulement personne ne s'est rendu compte que je n'étais pas là, mais en plus, j'ai reçu des commentaires très positifs sur ma chronique. De la semaine dernière, chronique, et je vous le rappelle, n'existe pas. J'ai même reçu un appel de ma mère qui m'a dit « Bravo fiston, ça y est, t'as trouvé le truc, c'était très France Inter. » Bref. Pour être sûr de rester bien concentré et de faire une chronique parfaite pour Ludivine et Virginie, je me lasserai pas de dire leur prénom comme si c'était des vieilles potes à moi. Eh ben, je me suis retiré hors de Paris.
Vieilles potes, elles prennent très bien.
Compliment. Non, enfin des amis de longue date.
Ah, évidemment.
Trop tard.
Alors, bref, je me suis retiré. Mais plus affinité, mais vraiment vrai. Bref, je me suis retiré hors de Paris. Je suis allé dans un monastère pour effectuer ce qu'on appelle une retraite. À ce propos, je comprends un peu nos amis les Gilets jaunes et leurs revendications parce que je peux vous dire que la retraite c'est pas fun fun. Non, on n'a pas le droit de parler, pas de wifi, pas de télé, pas de téléphone, et des mecs en robe de bure et en sandalette qui te sonnent une cloche pour qu'on aille manger de la soupe dégueulasse. Non, non. Écoutez, je suis parti chercher l'inspiration, tout ce que j'ai trouvé, moi, c'est des mecs qui font du miel. Bizarre. Donc, il est où le miel ?
Ligne 8.
Ligne 8. Ah oui, non, j'ai une revendication à faire là. Surtout un petit message personnel. Où est la caméra de la radio ? Elle est là. Monsieur Macron, hein ? On se bouge un petit peu. Voilà, parce que moi, c'est pas pour ça que je cotise. Voilà, c'est un petit moment politique. Donc, bref, j'ai cherché à faire.
Je pense que ce soir, à 20h, il va changer de discours.
Je suis le nouveau Anne Roumanoff. Ouais. Non, donc, j'ai cherché à faire une chronique parfaite. J'ai voulu demander conseil à des auteurs brillants de la maison, des gens qui ont une véritable plume. Pour ça que je me suis pas adressé à Daniel Morin. Non, j'ai préféré demander à Frédéric Becbébip. Pardon, Frédéric Becbébip. Ah, d'accord. C'est devenu celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Bon, bref, j'ai pas eu accès à Voldemort. Donc, je me retrouve là. Seul, dans ma chambre, en slip, à me dire, je la sens pas, je la sens pas, je la sens pas, puis pris d'une Raymond de Vossite aiguë, comme je la sens pas, je fais les 100 pas. J'ai même chanté, puisqu'on connaît la chanson, 100 pas, tu chantais. Bon, je vous cache pas que j'ai beaucoup tourné en rond, hein, puisque ma chambre ne fait pas 100 pas de long, elle en fait 9, si je fais 100 pas, j'arrive chez la voisine, et j'étais en slip. Donc, je tournais dans ma chambre, je tournais même dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour pouvoir remonter le temps, et si je remonte le temps de cette chronique, et que j'arrête de tourner autour du pot de chambre, pardon, eh ben je ne dirai qu'une chose, Virginie Ludivine, je vous aime, épousez-moi.
Merci,
Jérémy. Merci.
France Inter. Nagui, la bande originale.
La bande originale, justement, de vos vies, ouais. Toutes les deux, en fin des années 80, début des années 90, début au cinéma. Pour toutes les deux, Ludivine Sani, vous écoutiez. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. Qu'est-ce que c'est bon, ça? You were only waiting for this moment to be free. Vous réentendez cette musique, vous vous voyez dans quelle pièce,
dans quel
lieu, ouais, dans quelle situation?
Alors, je me vois dans ma chambre, c'est mon père qui me chantait cette chanson à la guitare tous les soirs.
Carrément?
Ouais.
Ah ouais?
Ouais.
Guitare-voix pour...
Ouais, c'était rien que ça.
Ouais,
c'est classe.
Ouais, c'était... Bah, et puis j'avais tout l'album blanc, hein. J'avais Julia, I Will et tout ça, et je le refais à mes enfants maintenant.
Vous jouez Blackbird et guitare voix.
Non, parce que moi je joue que du ukulélé et Blackbird, il est super dur.
Mais c'est pour ça que je soulignais le mérite de votre papa de le faire.
Non, mon père, il met toucher la guitare. Ouais, 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 absolument.
Et dans ces années-là, vous avez 9 ans, on est en 88, et vous tournez pour la première fois dans un film, Les maris, les femmes, les amants, réalisé par Pascal Thomas.
Absolument.
Et je crois qu'en fait, vous volez la vedette à votre sœur finalement.
Non, pas du tout. C'est juste que je me suis retrouvée dans un casting avec ma sœur
Vous l'accompagniez. C'était elle qui devait le passer, le casting.
Oui, voilà, mais bon, voler la vedette, c'est un bien grand mot.
C'est vous qui êtes engagée?
Oui.
Mais c'était pas vedette à l'époque, en fait.
Non, j'ai pas été vedette.
Vous avez juste volé le cachet pour ça. Juste le cachet.
Non, c'était pas pour le même rôle, ouais. Etc.
Elle est encore comédienne ou pas, votre sœur?
Non, elle est agent d'acteur.
Ah, génial.
D'accord, donc elle est toujours dans le métier.
Absolument, ouais.
Super.
Et quel souvenir vous avez de ce premier casting?
Le premier casting, c'était un hasard total. Voilà, moi j'attendais dans la salle d'attente et on m'a proposé de faire ce truc. Je l'ai fait. On m'a dit c'est bien. Et voilà. J'ai pas de.
Ça c'est fou. C'est assez fou quand on y repense de commencer comme ça.
Ouais.
elle avait quel âge votre soeur? Vous avez combien d'écart?
On
en
a
fait
5 ans.
5 ans d'écart. 5 ans,
elle va avoir 12-13 ans.
Ouais. Et les parents, surtout, que disent-ils d'envoyer comme ça deux enfants au casting? Ils vous accompagnaient, j'imagine?
Oui, non, mais moi, ma mère ne m'envoyait pas. C'est juste qu'un mercredi après-midi, elle ne pouvait pas me garder. Du coup, j'étais.
Du coup, vous étiez là?
Oui.
Mais elle avait envie que sa grande fille tourne?
Non, elle avait envie de rien. Elle subissait nos initiatives.
Non, mais elle pouvait pas les faire garder. Elle les a posés dans la salle d'attente. Elle savait même pas que c'était un casting.
C'est ça. C'est quand même, si elle va à un casting, c'est bien ce qui se passe.
Oui, voilà. Comme, je sais pas, elle était, elle connaissait pas le milieu, elle connaissait rien. Donc elle s'est dit, pourquoi pas? Enfin, il y avait pas d'ambition derrière ma mère. C'était plus l'ambition de ma sœur. Non, pour un casting, on va pas se dire, oh là là, monde du show business, etc.
Non, mais l'école. On se met à tourner. Est-ce qu'on va à l'école? Est-ce qu'on,
Je sais pas, ils étaient pas tellement inquiets, mes parents.
Il y a pas mal de comédiennes qui, ayant débuté jeunes, ont subi des regards après plutôt réprobateurs en classe ou au bahut, quoi. On est genre, tu la joues vedette, tu la racontes vedette. Enfin, ça n'a pas toujours été simple pour certaines.
Déjà, moi, j'étais pas vedette.
J'entends, mais je parle pour d'autres. Ça n'a pas été simple.
Et moi, j'avais des parents extrêmement sains et ma mère faisait très attention et j'avais le droit de tourner que si j'avais les encouragements à l'école.
Il y avait un deal.
Si le tournage j'étais pendant les vacances scolaires, etc. Voilà. Je me souviens de ma mère qui disait « Tu remplis le contrat !» Et donc, si je remplissais le contrat, j'avais le droit de faire des castings.
Virginie Ledoyen, vous écoutiez In Excess.
Il y a un truc en plus In Excess. There's something about you,
girl, that makes me swear. Need You Tonight, In Excess. Là aussi, vous vous revoyez dans quelles circonstances à écouter cette musique?
Ah ben là, je me revois dans les premières soirées.
À danser.
Ouais, à danser. Je devais être en, je sais pas, cinquième, un truc comme ça, ouais. Et cinquième, quatrième.
C'est plus des booms alors, c'était pas des...
Oui, d'accord. On appelait ça des soirées, on voulait plus dire des booms parce qu'on...
On est grand, on se voulait plus grand quand même. On est ados, on est plus grands.
Ouais, et puis voilà, c'est vraiment mes premières booms.
Et des castings aussi, pour revenir à Ludivine Saunier, vous êtes aussi jeune, vous avez 13 ans, vous avez dû en faire certains avant, je crois.
J'ai tourné déjà avant.
Ouais, vous avez tourné avant, et vous y allez toute seule, vous, au casting?
Ouais, moi j'y vais toute seule, ouais.
Pour,
en métro.
Pour Mima, c'est ça? Pour
ouais, mais ça c'était bien avant.
Ouais.
Ouais, j'y allais, mais en fait j'ai commencé bébé, donc c'est encore un autre trip.
En fait, on faisait des spectacles de théâtre ensemble quand
on avait la même prof.
Ouais. On avait 9-10 ans.
Ouais. Incroyable.
Ouais, c'est fou, hein.
Incroyable.
On s'est rendu compte très tard que c'était
que vous connaissiez.
Parce que c'était toi.
Avec Benoît Magimel.
Ouais, c'est fou.
Ah ouais, d'accord. Sacré cours, quand même. Joli casting dans le...
une troupe, ouais.
C'est quoi? C'est un cours d'arrondissement, de conservatoire, de quoi?
Alors, toi, t'étais à Sèvres.
Ouais. Et elle était prof aux intermittents,
aux enfants du spectacle.
Enfants du spectacle.
Et donc, dans le cinquième. Moi, j'étais dans une école.
À Rognoni. Dans 5e.
Exactement.
On va peut-être pas aller jusque-là, mais on veut savoir. Non, c'est pas ça. On en avait parlé une fois de ce collège.
À côté du Paradis Latin.
Exactement. Dans le 5e arrondissement.
C'est pas du tout, pardon, à côté de Sèvres. Donc,
elle avait deux cours.
Elle avait deux cours.
Ok.
Et donc, dans mon école, dans laquelle j'étais, on avait des cours à horaires aménagés, école le matin ou l'après-midi. Et lorsqu'on n'avait pas cours, on devait faire des activités artistiques. Donc, moi, je faisais des cours d'art dramatique avec une professeure, Martine Hieronymus, qui était également la professeure de Ludivine. Et donc, nos spectacles de fin d'année se sont croisés. Voilà. Et on s'en est rendu compte quand on a tourné toutes les deux.
Et pour arrêter qu'il y ait des suspicions dans ces regards-là, Mélanie, ma douce et tendre épouse, était aussi dans dans ce même bahut.
Je te regardais même pas.
Et finalement, vous, contrairement à Ludivine, pour le coup, vous avez commencé très très tôt. C'était un véritable désir. Un metteur en scène, quand il rencontre une jeune femme, vous avez 13 ans.
Une petite fille.
Une petite fille, une future grande femme. Est-ce que qu'on n'est pas inquiet aussi de faire tourner les enfants? Est-ce qu'il n'y a pas un rapport comme ça, un peu protecteur de certains réalisateurs?
Ouais, bah oui, de tout. Alors après, moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de publicité quand j'étais enfant. Donc le rapport protecteur, il est différent.
Il est limité, ouais.
Il est assez limité. D'abord, il est plus court. Mais vous parliez de Mima, ouais, par exemple.
De Philomène Esposito.
De Philomène Esposito. Elle l'était effectivement, d'autant plus que je jouais. C'était son histoire. Donc,
il y avait
un transfert énorme. On tournait dans le sud de la France. Donc, je partais, je ratais l'école pendant 8 semaines. C'est long. Elle était très maternelle même.
Ouais. C'est plus facile à dire.
Merci de l'avoir noté, Nagui. J'ai pensé pouvoir.
Tout le monde l'a vu, personne n'a osé le relever.
T'as commencé sur les mademoiselles, tu relèves les accros, bravo.
S'il y a un salaud autour de la table, c'est lui.
Sachez-le. Et c'est vrai que vous avez eu votre premier baiser au cinéma très tôt, à 13-14 ans.
Ouais, alors moi je trouvais ça tard. J'attendais absolument. J'avais 14 ans.
14 ans, c'est un peu. Ouais. J'étais un peu à la bourre.
J'étais un peu à la bourre.
Et votre partenaire, c'était.
Et c'était Marcello Mastroianni.
Oh mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
68 ans.
T'as embrassé Marcello?
14 ans, 68
embrassé,
ans.
Ouais. Comme on embrasse au cinéma. Hein.
Elle a embrassé Mastroianni et DiCaprio, quoi.
Bah ouais.
T'es chiante.
Mais c'est des baisers de cinéma. Oh.
Oui,
14 ans. 14 ans et lui, 68 ans. Ça fait quoi, du coup, pour un premier baiser de cinéma?
Non, mais en fait, c'était curieux. Moi, j'étais hyper contente. Alors, évidemment, c'était pas tout à fait pareil pour moi d'embrasser un homme. Mm-hmm. J'aurais préféré comme
mur,
ça
dans, vous voulez dire
un homme, ouais, moi un j'aurais homme. Aimé faire la boum, quoi, embrasser un garçon de mon âge, donc bon, c'était pas le cas. Mais ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que il était, moi j'étais quand même assez excitée, j'étais toute contente à l'idée de le baiser de cinéma la première fois, même si je sais très bien qu'on embrasse pour de faux, mais quand même c'était un vrai truc pour
moi.
Il y a quand même érogène. Un contact. Et j'étais hyper contente, pas du tout inquiète, etc.
Mais paraît que lui aussi était très content.
Non, il était très inquiet. Il était extrêmement.
C'est plus gênant pour lui, je pense.
Gêné, c'est très attention. Enfin, ça lui plaisait pas des masses. Hein.
Vous êtes très sensible sur les baisers, j'ai l'impression, Ludivine Sagnier. Parce que Marcello, Leonardo, vous êtes jalouse.
Ah bah,
vous dites que c'est une zone érogène, même les faux baisers, ça compte.
Bah oui, les faux baisers, ça peut être troublant. C'est pas quand on dit un faux baiser,
ne me parlez pas sur ce ton.
Non, mais c'est pas vrai qu'il se passe rien. C'est toujours un peu.
C'est un contact.
Même si c'est mécanique, c'est un contact, c'est une intimité avec quelqu'un. On peut pas dire le contraire. Donc voilà, j'aurais adoré partager cette intimité avec Marcello et Leonardo. Excusez-moi.
Vous vous souvenez de votre premier baiser au cinéma, vous?
Non.
Et du comédien. Ah bah ouais, c'est tellement intime que vous avez oublié le comédien.
Et est-ce qu'on en fait des vrais parfois? Parce que en voyant les films là récemment, je me dis souvent ils sont mal faits les baisers, parce qu'on voit bien qu'ils.
Les États-Unis sont moins bien faits qu'en France.
Ouais. qu'on embrasse vraiment le côté de la joue, qu'on tourne tête,
la moitié de la lèvre.
C'est gênant. Est-ce que vous avez déjà fait de vrais baisers?
Bah, évidemment.
Oui, ouais. Parfois ça dérape un peu, on est là.
On a dit couper, ça fait une demi-heure, pardon.
Mais oui, après, ça arrive, et c'est pas si calculé que ça. C'est quand il y a une scène d'amour entre deux personnages et qu'on la joue. On la joue.
Ouais. Donc, parfois on s'oublie un peu.
Moi je me dis pas, oh zut. non, mais ce que je veux dire, c'est que.
Si, parce que quand c'est coupé, c'est genre, pardon, c'était un peu, j'étais complètement zappée. Comme...
c'était pas la vraie vie.
Voilà.
Surtout que c'était pas la scène de baiser. Donc c'est très bizarre.
C'est ça.
Non, mais oui, ça c'est. Mais c'est quand même pas des vrais baisers.
Non.
Dans le sens.
Dans le sens où il n'y a pas de sentiment.
Oui, ouais. Et puis.
Oui, mais ça reste une zone.
Oui, ça reste une zone.
Non, mais je me demandais pourquoi on faisait pas à chaque fois de vrais baisers. Enfin, de vrais baisers, c'est-à-dire pourquoi on n'y allait pas un peu plus franchement.
Ah bah, il y a aussi des acteurs et des actrices qui ne veulent absolument pas. Moi, j'ai rencontré des acteurs qui.
Je pense qu'il y a aussi des partenaires avec qui vous n'avez pas envie de partager un véritable baiser de cinéma.
Ah, ça, on pourrait en parler.
Allez-y, vous faites la place.
Il y a
l'espace.
Non, mais c'est vrai. Je pense qu'à l'inverse, on n'imagine aucun acteur refuser de faire un vrai baiser avec l'une de vous deux.
C'est gentil.
Mais que ce n'est pas forcément.
Il y a même des gens qui postulent.
C'est pas toujours réciproque, effectivement. C'est pour ça que l'intimité partagée, c'est compliqué.
On va revenir à la musique, s'il vous plaît. Dans les années 90, Ludivine, vous êtes au conservatoire et vous écoutiez...
Mieux vaut ne penser à rien que de ne pas penser du tout. Rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien, et puisqu'on oublie tout.
Votre culture musicale, les fondamentaux en tout cas, viennent de vos parents ?
Oui, absolument, oui. Bah, comme tout le monde, non ?
Non, ça se sent. Ouais, on peut prendre le contre-pied aussi de la musique de ses parents. Là, on sent une influence aussi.
Oui, mais vous allez voir que dans les choix d'après, je me suis complètement éloignée de mes parents. Mais bon, les Beatles et Gainsbourg, c'est la base.
À cette époque-là, vous êtes au conservatoire de Versailles, je crois, c'est ça. Vous remportez les premiers prix au concours classique, au concours moderne.
Ouais.
Bah, non, c'est pas vrai.
Si, mais je suis toujours étonnée des informations qui circulent. Allez-y, je vous en prie.
Parce que vous l'avez déclaré, je crois, dans une interview, voilà pourquoi. Et très rapidement, vous vous dites que ça y est, c'est vraiment essentiel pour vous de devenir comédienne. Le déclic arrive vers 14-15 ans où c'est décidé et ça sera pas autre chose.
Ouais, c'est vrai.
Une certitude qui vient d'où, de quoi, de quel élément déclencheur?
Ça vient d'une lecture en fait, des lettres à un jeune poète de Rilke. Ouais. Et en fait, c'est un jeune poète qui écrit un poète donc à Rilke et qui lui demande si comment il peut savoir s'il doit s'engager dans une vie artistique et en fait Rilke lui demande de s'interroger sur la nécessité qu'il y a à faire ce métier-là et s'il ressent la nécessité alors c'est qu'il doit le faire. Ouais. Et à ce moment-là ça m'a traumatisée et j'ai senti cette nécessité très forte en moi et je me suis dit allez on y va.
Ça veut dire que ça vous permet aussi de faire des choix, donc qu'est-ce que vous laissez de côté pour assouvir ce besoin?
Ma famille.
Non mais c'est vrai, vous quittez la maison.
J'ai pas quitté la maison à 14 ans.
Non, à 16.
Après le bac.
17, je crois. Ah ouais. Oui, non, 16, ouais, c'est vrai. 16. Ouais. Oui, j'ai quitté.
Mais avec le bac, ça va. Ça va, vous avez fini vos études.
Oui. J'étais tranquille.
Secondaire, oui.
Mais c'est pas des concessions, c'est juste des élans naturels. Enfin, on se détache naturellement de ses parents pour accomplir...
C'est quand même tôt,
c'est jeune. 16 ans. On peut se dire que ça peut venir un peu après la fac.
Vous allez accepter ça de vos enfants qu'à 16 ans, ils se cassent?
Ah, mais c'est naturel.
Non, mais moi, je travaillais déjà. C'est-à-dire que j'avais un revenu régulier parce que je faisais du doublage, donc j'avais un...
De Nathalie Portman dans Léon, c'est
enfin,
Léon.
Enfin, pas que.
Pas que ça, mais c'est vous.
Mais, ouais, effectivement. Donc j'avais un revenu mensuel, donc je pouvais louer un appartement, etc. Donc j'aspirais énormément à l'indépendance parce que, comme Virginie, comme on a travaillé très jeune, on avait déjà un rapport à l'argent qui était un peu plus responsable que d'autres
vous
enfants.
Vous gériez votre propre argent.
Voilà, et on avait un rapport aux adultes aussi qui n'était pas le même. Puisqu'on travaillait avec des adultes, on avait un pied quand même dans le monde du travail, donc c'est vrai que l'indépendance, elle se faisait plus facilement.
Virginie Ledoyen, vous écoutiez à ce moment-là, vous... Zombie des Cranberries.
Ah ouais, ça on l'a entendu, mais tellement de fois. Ouais. Quoi. Tout d'un coup, ça y est. Vous voyez où justement en écoutant les Cranberries?
Bah alors là, c'est marrant parce que je crois que c'est le premier appartement que j'ai loué. J'avais 15 ans et j'écoutais ça hyper fort. Et mon voisin, j'avais pas encore compris. J'habitais dans une maison avec mon père, et puis j'emménage dans un petit studio à Paris. C'était super et tout, mais j'avais pas compris qu'il fallait faire attention aux voisins. Donc je mettais à fond. Et donc je me souviens de ma première altercation de voisinage.
Et à cette époque-là, on vous retrouve à l'affiche de La Fille Seule de Benoît Jacquot, et on parlait de Benoît Magimel justement, qui faisait partie de l'aventure. Et là, c'est une petite révélation aussi en termes de comédienne pour vous dans le jeu.
Faut dire qu'en plus, c'est le film, il est particulier parce que c'est un film qui se tourne en temps réel. Ce qu'on voit à l'écran est exactement ce qui se passe, et donc on a tourné dans l'ordre chronologique, ce qui est extrêmement rare. Ouais. Donc le principe, c'est que la personne, et donc l'héroïne du film que j'interprétais, elle est de chaque plan, et donc avec une caméra qui ne vous lâche pas. Littéralement, c'était Caroline Champetier, qui est une formidable directrice de la photo, qui faisait la lumière. Donc c'est vrai que je jouais davantage avec la caméra finalement qu'avec des acteurs, et c'était un total autre rapport au jeu,
c'est
en
ce
fait.
Que nous avait dit Isabelle Carré ici pour son film avec Philippe Harel aussi. Ouais.
Une femme...
La femme défendue.
La femme défendue.
Ouais, c'est ça.
Ouais, le film de Philippe Harel. Oui, donc du coup, on est dans un rapport presque d'intimité avec une caméra qui ne vous lâche pas, mais qui reste une. Et qui, justement, n'est plus un objet technique.
Mais un œil.
Mais un œil ouais. Et un partenaire.
Un compagnon, ouais.
Et un vrai partenaire.
En 2002, Ludivine Sani, vous vous détachez totalement de la musique de votre papa, puisque vous chantez. Papa, 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 t'es plus dans le coup, papa. Tu m'avais dit, mon enfant sur la terre, aide tes frères, tu seras récompensé. J'adorais ce titre. Je vous avais saoulé avec ça sur RTL. Je me suis traîné 25 fois tellement j'avais adoré ça. Et quant à vous, Virginie, vous chantiez dans le même film.
Mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi.
Et donc c'est pas la première fois que vous rencontriez, puisque là on a bien compris que ça datait d'avant, mais c'est la première fois que vous tournez ensemble toutes les deux.
Oui, ouais. Et que d'une certaine façon on se rencontre parce qu'on
on se connaissait de vue, quoi.
On se connaissait de vue, et je jouais ma petite sœur. Moi, je jouais sa grande sœur.
Mais juste savoir chanter, le plaisir de chanter, est-ce que c'est un plaisir qui est dans la suite logique d'une comédienne, c'est-à-dire c'est une interprétation, elle est musicale cette fois-ci, mais c'est un plaisir.
On va pas parler au nom de tous les comédiennes.
Non, mais vous ?
Bah moi, oui, absolument. Ça a toujours été un plaisir.
Un kiff, ouais. Et faire une comédie musicale, ça.
Bah j'en ai fait un petit peu les chansons d'amour.
Et c'en est un peu
une aussi. Femmes, c'est un peu. Ouais. Oui. J'ai toujours adoré. Et c'est vrai que Virginie, toi avec Jeanne aussi, t'as eu ce plaisir-là. C'est vrai que moi, ça fait toujours partie de mon chemin, de mon travail. Dès que je peux chanter au cinéma, je suis contente.
Virginie,
moi,
vous,
c'était plus compliqué. Moi, c'était très.
Vous avez fait Taratata quand même. Hein.
Oui, bien sûr. Non, mais vous souvenez.
Trop la classe.
Souvenez-vous,
c'est vrai,
j'étais
t'as
malade.
Fait Taratata.
Ouais.
Qu'est-ce que t'as chanté?
J'ai chanté une chanson de Gainsbourg. Tu es un fleur
d'Havane
avec Stomy.
Entre les baisers, Taratata, c'est bon.
Elle m'a pas embrassé.
Mais Nagui, moi, je vais bien faire Taratata aussi.
Ok. Dis.
Ok. C'est une émission géniale. Mais moi, je trouve que le chant. Alors, curieusement, ça a été longtemps pour moi très compliqué parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intime, la voix. Et bien plus, je trouve, que être devant une caméra. Et j'avais beaucoup de mal. Et quand François Ozon, justement, m'a demandé de. Enfin, nous a demandé à toutes de chanter. Je me suis dit, oh là là, au secours, il va falloir chanter. En plus, j'étais convaincue de chanter comme une casserole. J'avais fait. Un film, et c'était Michel Legrand.
C'était presque.
Non, c'était Michel Legrand qui faisait la musique et qui m'avait dit que je chantais comme une casserole.
Ça
m'avait traumatisé.
Oh,
mais ça l'a mise en confiance.
Ça m'a mis super en confiance, donc la perspective de me retrouver.
Et ça a été un succès en plus, 8 femmes pour le rappeler, et saluer François Ozon. On vous salue également, Francis Marcoing, merci. Vous êtes à ce micro, vous êtes ancien président de l'Université d'Artois, mais surtout président de l'association des Amis d'Hector Malo, et justement à propos de Rémi sans famille, qui sort au cinéma avec un sublime film qui sort ce 12 décembre. Est-ce que Rémi sans famille a tout de suite été un énorme succès dès sa publication?
Alors, premièrement, le titre, c'est Sans famille. Hein, c'est-à-dire
oui,
que
pardon.
Rémi n'est pas,
non,
ne figurait pas dans le titre.
Exact.
C'est, en fait, c'est le
c'est dessin animé qui s'appelait Rémi.
Japonais qui a posé ce titre-là, puisqu'aujourd'hui, tout le monde connaît Sans famille par ce biais-là. Enfin. Donc oui, ça a été un succès très rapide. Alors, c'était publié en feuilleton à partir de 1877 et publié en livre d'étrennes en 80. Comme aujourd'hui, c'est un film d'étrennes. En fait, on pourrait dire que c'est exactement la même chose.
Et alors, que fait l'association des Amis d'Hector Malo, racontez-nous.
Elle s'intéresse à Hector Malo, elle se rencontre autour de alors d'une œuvre qui, comme vous le savez, n'est plus très en vogue en dehors justement de Sans famille. Alors c'est aussi toute l'époque de Malo qui est intéressante à
ouais, puis
à
il
considérer.
A été énormément lu, il a même eu il est même présent dans l'affaire Dreyfus.
Enfin, il a failli. C'est-à-dire que l'épouse de Dreyfus lui a demandé de prendre la défense de son mari et il a refusé. Alors, pour des raisons diverses, il avait pris sa retraite. C'est le seul écrivain ou seul artiste qui a pris sa retraite officiellement. Parce que généralement,
quand tu es artiste.
Alors, il a annoncé dans les journaux qu'il prenait sa retraite. Alors, on s'est beaucoup moqué. On a dit, il ferme sa boutique. Enfin, vous voyez, c'était à peu près ça. Donc, il a refusé de défendre Dreyfus, ce qui fait qu'il a laissé la célébrité, si on peut dire, à Zola, puisque c'est Zola qui a,
qui a écrit. Ouais, le J'accuse, c'est, voilà. C'était Clémenceau qui avait trouvé le titre du J'accuse.
Oui, c'était dans le journal de Clémenceau.
C'est ça. Il y a eu beaucoup de films sans famille ou Rémi sans famille. Combien en tout?
Combien au total, je ne peux pas vous dire, parce qu'il y a des films étrangers, il y a eu des films russes, chinois, italiens. En France, bon, on n'est pas loin d'une dizaine, je pense, enfin si on compte les téléfilms notamment.
D'accord. Et il n'a pas écrit que Rémi, que Sans Famille.
Que Sans Famille.
Il y a eu combien de livres?
En gros, une soixantaine de romans. Alors, c'était considéré au départ comme un écrivain naturaliste, hein, avant Zola même, hein, d'une certaine manière. Des romans très très longs qui obéissaient à la règle du roman feuilleton dans les journaux.
Et toujours avec cette double lecture, c'est-à-dire qu'il parle aussi bien aux adultes qu'aux enfants.
Non, enfin, il en a fait quelques-uns. D'ailleurs, s'il a écrit Sans Famille, c'est parce que c'était une commande au départ de l'éditeur Hetzel, qui est l'éditeur de Jules Verne. D'accord. D'ailleurs, Hetzel aurait voulu s'attacher les services d'Hector Malot comme ceux de
Jules
Verne.
D'où le clin d'œil à Jules Verne dans Sans Famille.
D'une certaine manière, enfin, quel clin d'œil vous voyez?
Dans le film, en tout cas, il y a un clin d'œil à Jules Verne.
Ah oui, il ouvre
entre Lise.
Ah oui,
entre
Lise.
Oui, mais là, c'est un clin d'œil du
film.
Du film, oui. Mais il avait écrit précédemment déjà un ouvrage qui a eu un grand succès, qui s'appelait Romain Calbrise, qui était déjà une espèce de petit tour également, enfin, surtout de la Normandie. Et donc, on lui avait passé cette commande. Et il a eu du succès immédiatement.
Ce film, pour vous, vous le trouvez fidèle à l'œuvre d'Hector Malot?
Oui et non. Enfin, fidèle, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'en fait, c'est un roman très très long. Il est composé, on pourrait dire, de plusieurs romans. Même.
Donc il y a toute une partie initiatique, justement, qui n'est plus là. C'est-à-dire, il découvre tous les métiers, il y a plusieurs métiers.
Oui, il y a l'épisode fameux dans la mine, par exemple, avec une catastrophe. Il y a aussi un apprentissage chez un horticulteur dans la région parisienne. Donc, ils sont quasiment des romans en eux-mêmes. Mais je trouve qu'il a respecté, enfin, ce que j'appelle le noyau dur du roman, c'est-à-dire ce côté initiatique, justement, et avec en plus des inventions. Mais ça, c'est ce qu'on attend, je dirais, aussi d'un cinéaste, c'est-à-dire que c'est pas seulement quelqu'un qui met en image, il invente aussi des choses.
Il met sa patte. Ouais. Merci beaucoup d'être venu à ce micro. On est pris un tout petit peu par l'heure. J'adore ce petit retard. C'est trop chic. T'as vu, je prends même mon temps, Tanguy. Qu'est-ce qu'il y a, Tanguy?
Non, rien. C'est moi qui suis stressé par le retard.
Ne sois pas du tout. Ne sois pas du tout. On est sur France Inter.
D'accord, très bien, très bien.
La parole du président Macron est très attendue ce soir 20h.
Ben, oui, il attendait de voir si oui ou non il serait pendu samedi, puisque ça servait à rien qu'il se mette à l'écriture de son discours s'il était mort. Et finalement, ça s'est bien passé. C'est-à-dire que la moitié des villes de France a été mise à sac en un niveau de tolérance dit de Beyrouth maintenant. Alors ce soir, oui, il va parler à la télé.
Et nous, on en reparle après les infos de midi 1.
Bonjour! Avec Daniel Morin!
Daniel Morin, je m'étouffe, Top Villa!
Bonjour!
Tanguy Pastureau! Bonjour! Jérémy Crédville!
Bonjour!
Et nos invités, Ludivine Salier, Virginie Le Moyen! Nous parlons de ce très beau film Rémi sans famille, et pour avoir déjà vu d'autres Rémi sans famille ou des sans famille, pour avoir vu évidemment le dessin animé, ça fait du bien de redécouvrir, parce que ça peut être aussi une question que l'on se pose, j'imagine, quand on fait un film. On a évoqué tout à l'heure la dizaine ou la douzaine de films qui existaient déjà et qui avaient été faits, enfin, films et feuilletons, tout à l'heure avec Francis, notre invité, mais ça fait du bien parce que aussi il y a des choix qui ont été faits dans ce film. Par le réalisateur, par Antoine Blossier.
Ouais, le personnage de Vitalis, par exemple, il est beaucoup plus noir dans le dessin animé. Ouais. Et ça dure beaucoup plus longtemps avant qu'on se rende compte qu'il a un grand cœur en réalité. Et là on le voit un peu plus rapidement. C'est pour ça qu'on s'attache très fort au personnage de Daniel Auteuil.
Bien sûr, qui est extraordinaire dans le film.
Il est génial.
Non, mais c'était une volonté farouche d'Antoine Blossier de dépoussiérer et du coup d'enlever tout ce qu'il pouvait y avoir de
alors je sais
effrayant.
Plus je sais plus l'histoire entre Hector Malot et le dessin animé, mais à la base Vitalis était un chanteur et pas un violoniste. Là dans le film il est violoniste.
Oui, il a pris quelques libertés aussi avec comme le disait juste avant Monsieur Marcoing, c'est-à-dire que c'est une saga, c'est un feuilleton, donc il a fallu quand même couper un petit peu, faire des choix, et même le personnage que j'interprète, Madame Harper, qui est la mère de Lise, qui n'était pas le cas dans le roman, etc. Donc, il a un peu synthétisé et aussi.
Et c'est elle qui fait l'enquête et c'est elle qui permet à Rémi de retrouver sa maman. On connaît la chute du roman.
Oui, c'est vrai, on déflore rien.
Non. Rémi sans famille, c'est au cinéma, c'est du grand cinéma et c'est ce mercredi. Voici Tanguy Pastureau. Tanguy, vous êtes un naturel pessimiste.
Oui, Nagui, je suis déprimé, comme le sont souvent les artistes. Quand j'arrive au bout d'une chronique de 5 minutes, je suis étonné d'être encore vivant et je me dis, mais quelle connerie d'avoir tant bossé sur l'écriture alors que ce ne seront même pas mes derniers mots. Mais moi, je suis tellement désespéré que si j'étais le dernier rhinocéros en vie, j'essaierais de me rouler en boule afin de me perforer l'anus avec ma corne et mourir de suite plutôt que d'attendre que des braconniers fassent de la poudre avec afin de susciter l'érection de 3-4 Chinois qui n'ont pas entendu causer du Viagra. Mais d'autres personnes sont résolument optimistes. Elles avancent dans la life en se disant c'est que du bonheur, comme le président Macron. Macron, il a tout pour être malheureux. Il est moins aimé que la grippe espagnole en 1905. Les gens parlent plus ou moins de l'ouvrir, le vider et commercialiser ses tripes sous l'appellation l'andouille de l'Elysée, et lui reste zen. Mieux, on apprenait hier dans le JDD, hein, le journal que les ringards lisent le lundi, qu'il aurait déclaré devant ses conseillers, quand il y a de la haine, c'est qu'il y a aussi une demande d'amour. Il est incroyable. Si Macron avait été Jeanne d'Arc, sur le bûcher, il aurait déclaré à son bourreau, mon gros loup, je sens la chaleur de ton amour si fort, viens à moi, sans même se rendre compte que le mec a aspergé le petit bois d'allume barbecue et est à deux doigts d'inventer le concept de la merguez party. Si ce qui se passe tous les samedis, c'est une demande d'amour, c'est de l'amour très très physique. Je te prends, je te retourne en t'éclatant la tête dans le mur. Les gilets jaunes, même si Macron avance par décret la Saint-Valentin et leur offre à chacun une smartbox séjour en yourte avec Zaz, ils vont pas lui offrir leurs fleurs. Mais lui, il continue, il avance. Moi, un seul type écrit bof en dessous de ma chronique sur YouTube, j'ai envie de me suicider en regardant l'émission d'Evelyne Thomas sur Chérie 25. Macron, 3 semaines que des milliers de gonzes hurlent sous ses fenêtres qui vont ressortir la trancheuse à saucisson de Louis XVI et lui voit une demande d'amour. Même à Woodstock, en pleine montée d'acide, les gens tout nus se tapaient pas de telle tripe. Enfin, il est tellement déconnecté, si un jour sa femme lui annonce qu'elle le quitte pour quelqu'un de plus populaire, donc n'importe qui, et il lui dira, ma chérie, ta demande d'amour est énorme, presque aussi grosse que celle des Français, mais enfin, je peux pas être partout. Macron a même, selon l'Express, confessé à des élus avoir fait, je cite, plusieurs conneries, hein, comme la baisse des APL ou les 80 km/h sur National. En gros, tout ce qu'a initié Édouard Philippe. Hein. C'est son Jiminy Cricket de la loose. Et là, lui qui depuis un an et demi reste seul à se répéter qu'il est génial en se frottant les fesses à un grand miroir parce qu'il s'est vu dedans, a même accepté de parler. Ce matin, Macron a reçu Gérard Larcher du Sénat, Richard Ferrand de l'Assemblée, plus les syndicats. Que des gens dont le peuple ne veut plus. Hein, ça équivaut à recevoir le prince Albert pour discuter des cheveux et de la décroissance.
Le mouvement des gilets jaunes, d'après vous, est un rejet global des élites.
Mais oui, élite politique et médiatique, on est mal. Mais moi, quand on me demande où je bosse, je réponds même plus. J'ai une petite saloperie macomoulage de mon fils que je sors de ma poche en disant « moi, je suis potier ». Mais les gens n'en peuvent plus des élites, il y a un rejet. Et ça va pas s'arrêter là. Moi, un jeune qui voudrait faire l'ENA, je dirais « mon pote, tu vas au casse-pipe, choisis une filière avec plus d'avenir ». Vitrier, tiens, chaque dimanche, les mecs ont tout Paris à refaire. Encore 3 semaines comme ça, ils défiscalisent aux îles Caïmans. Donc on sent que ce qu'attend le peuple, c'était de représenter en direct. C'est du macronisme, on zappe les sous-traitants, les politiques, ubérisation. Et Macron reçoit Gérard Larcher. Alors que la légitimité de quelqu'un en 2018 se fait sur les réseaux sociaux. Et je suis désolé, mais si même si Larcher fait un Instagram, on le voit en soutif avec Thomas, le petit ami de Nabila, en train de lui caresser les fesses sur une plage de Dubaï, ça générera à peine 30 clics. Macron ce soir va parler à la télé. La télé, qui regarde encore ce truc? Les gamins de 18 mois, une fois ils s'approchent de l'écran, ils essayent de faire défiler leur chaîne avec les doigts, il n'y a rien qui bouge, ils laissent tomber. Pour eux, c'est aussi dépassé que l'idée de la démocratie pour Kim Jong-un. Pire, alors qu'on n'est pas loin d'une révolution, on apprend qu'après Hollande, hein, le Corrézien qui remet au lendemain ce qu'il comptait même pas faire le jour même, Sarkozy envisagerait son retour. Sarkozy, il pense qu'il est encore celui qui peut sauver la France. Je serai son psy, je le rembourserai en lui disant en échange, je veux plus jamais vous voir. On parle d'une manière de faire un peu nouvelle et on a tous les anciens qui raboulent. C'est plus une république, c'est la croisière à tendre. Sarkozy, il est là, à la cool, avec Carla Bruni, l'une des plus belles femmes du monde. Il pourrait fumer des ouinges avec elle en mettant un sonotone pour l'entendre chanter Ruby Tuesday des Stones en slip. Et non, il a à nouveau envie de s'en prendre plein la tête, d'être haï. Même Alain Juppé va revenir. Il aimait sa ville, Bordeaux, parce que c'était beau. Samedi, elle a été pillée par tous les cassos qui croient plus au Père Noël et se sont servis eux-mêmes dans l'Apple Store. Donc il n'y a plus rien qui le retient. Mais ils n'ont pas compris que signer pour 5 ans à chaque élection sans avoir le droit de l'ouvrir, c'est plus gérable pour nous. Bien sûr qu'il faut que le peuple ait un un rôle plus grand dans la démocratie. Et en même temps, ça fait peur, parce que le peuple, c'est lui qui, à chaque album, met Céline Dion numéro un des ventes. Bref, ce soir, Macron a intérêt à donner la plus grosse dose d'amour jamais offerte. L'allocution aura lieu sous Poppers depuis Goa. Il sera en pyjama bisounours.
Justement, on parle de dose d'amour. C'est votre personnage, Ludivine Sagnier, qui a une énorme dose d'amour pour Rémi.
Oui, absolument. Bah, c'est,
mère
c'est...
adoptive et déchirée entre l'absence d'un mari qui est tailleur de pierre, qui est blessé. Elle garde cet enfant qu'elle ne devait initialement pas garder. Elle est en.
Oui, mais
en...
vous savez, les liens de filiaux, c'est plus complexe que juste des liens sanguins. Donc, quand à partir du moment où on a décidé, on adopte un enfant, c'est son enfant. Pour la vie, donc ça me paraît normal qu'elle donne tout pour cet enfant et qu'elle soit aussi aimante et qu'elle essaye de lui transmettre un peu de combativité, de positivité. Elle l'aide à pas avoir peur, elle l'encourage à se battre, à rester heureux, etc. Moi, je la trouve courageuse, cette femme. Alors, dans les changements qu'il y a eu, normalement, Madame Barberin avait une cinquantaine d'années, ce qui n'est pas mon cas.
Voilà, clairement,
merci pour cette info.
D'autant que vous faites encore plus jeune que votre âge, parce que
je sais même plus.
Mais je vous le dis, vous faites à peine majeure.
En revanche, votre personnage, à vous, Virginie Ledoyen, il est un peu plus ambigu, parce que c'est cet aristo qui veut le bien de sa fille, et on parlait de lutte des classes tout à l'heure, elle est justement dans cette envie de cantonner Rémi à son rôle de petit paysan.
Elle est de toute façon le produit de sa condition et de sa classe sociale, c'est-à-dire que certes, d'abord, elle aime sa fille de manière inconditionnelle. En plus, sa fille est malade, donc ça génère une autre empathie. Mm-hmm. Et évidemment, cet enfant, elle ne peut dans son monde à elle, hormis lui proposer de devenir le majordome.
Elle propose même de l'argent, c'est-à-dire qu'elle est prête à acheter.
D'une certaine façon, elle lui achète une condition, mais elle ne peut pas, elle peut même pas envisager qu'une autre soit possible. Ouais. Et c'est là où le personnage de Vitalis est aussi un personnage extraordinaire, c'est parce qu'il va révéler à cet enfant qui a un don incroyable, qui est une voix cristalline, superbe, ce que cet enfant probablement n'aurait jamais su avant de rencontrer cet homme et lui donner la possibilité et la liberté de cet enfant, ça va être son don, ça va être sa voix et ça va faire de lui un homme heureux.
Ouais, et c'est une ascension sociale possible.
Totalement possible. Ouais,
c'est l'une des morales aussi de l'histoire.
Ouais. Absolument. C'est en ça que le film est un film quand même. On a beaucoup parlé que le film était triste, etc. Mais c'est aussi un film qui est très optimiste. Ouais. Sur les valeurs à défendre et sur la liberté.
Oui, c'est une lecture qu'on peut avoir en tant que parent. Enfin, les adultes, moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que je trouve pas du tout que ce soit un film triste. C'est pas comme ça que je cataloguerais.
T'as et... pas de cœur, toi.
Non, mais c'est pas ça. C'est que je pense que c'est pas ce qui prend le dessus, en fait, dans l'histoire. Bien sûr, il y a un parcours qui est un peu chaotique, mais au-delà de ça, c'est ce message, c'est-à-dire que on peut transgresser sa condition sociale, qu'on peut être bien né sans le savoir et que par
et
ailleurs
on peut créer sa propre
famille. On peut créer sa propre famille, on le voit avec Capi, avec Joli Cœur, avec Vitalis, on peut aller comme ça dans les chemins déambuler et je trouve que c'est pas triste comme film, au contraire, c'est hyper lumineux et j'ai presque envie de kidnapper des gosses pour aller voir le film. Non mais parce que je trouve que c'est
voilà.
C'est hyper beau de se dire qu'on peut offrir un spectacle comme ça à son enfant. Enfin, il y a pas de crainte à avoir, faut pas dire qu'ils vont pas du tout être traumatisés de là, il y a quelque chose d'hyper solaire.
Rémi sans famille, un film que l'on va voir en famille.
D'accord.
Sorti ce 12 décembre avec Daniel Auteuil, Malôme Paquin, Virginie Ledoyen, donc évidemment, et Ludivine Sagnier, Jacques Perrin aussi qui est formidable, très touchant et juste, Jonathan Zakaï qui marche toujours pas droit. Exactement. C'est, alors que Daniel Morin, lui, c'est à cause de l'alcool.
Bonjour.
Il a perdu une dent.
Quelle joie de vous recevoir, mademoiselle. Quelle joie pour quel film en plus, Rémi sans famille. Beau et déchirant à la fois.
Non, tu vas pas recommencer.
Rémi sans famille, film bouleversant, film engagé, film qui fait chialer, mais qui fait chialer de joie. Une histoire belle comme la misère heureuse. Rémi est orphelin, pauvre petit. À l'âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive comme on arrache un champignon à une souche. C'est cruel et violent à la fois. Rémi est confié à un mystérieux musicien ambulant. À ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Rémi sans famille, c'est beau, ne rater sous aucun prétexte Rémi sans famille.
Wow, ça c'est du film qu'on a hâte d'aller voir en famille, c'est vrai. Une belle leçon de vie pour tous ces petits salauds de parisiens qui vivent dans un confort obscène et qui se plaignent à longueur de journée. D'ailleurs, je pense que ce serait salutaire pour tous les gosses de se faire abandonner au moins une fois dans leur vie pour qu'ils voient comment c'est d'avoir la trouille. Bande de petits fumiers. Oui, je sais, mais qu'est-ce que vous laissez l'approche de Noël qui me rend nerveux. Et puis, au fond, je crois que je déteste les gosses. Bref, alors, Mademoiselle, votre ami sans famille, c'est la 4e adaptation au cinéma, de loin la meilleure. Hein. De toute façon, comme personne n'est venu ici pour faire la promo des autres versions, que ce soit en 1925, en 1934 ou en 1958, on va dire que c'est la vôtre la meilleure. Et puis c'est tout. On va quand même pas donner du crédit à des gens qui n'ont même pas eu la courtoisie de venir présenter leur film ici. Ou alors, c'était tellement merdique qu'ils n'ont pas osé. Raison de plus pour dire que votre film est l'adaptation la plus fidèle et la plus réussie au livre d'Hector Malotte. Oui. Hector Malotte, ça s'écrit avec un T, je le dis si ça me chante. Bon, je sais, j'ai l'air un peu nerveux, mais je vous l'ai dit, l'arrivée de Noël me rend fébrile. Alors, pour en revenir à votre film, mesdemoiselles, je pense que le sujet ferait un excellentissime programme pour TF1. Toile de fond, Pascal le grand frère, avec comme objectif un programme phare de TF1.
Pascal, éducateur. Les adolescents difficiles, il connaît.
Rémi est un ado à problème. Abandonné une première fois, il est par la suite vendu par sa famille adoptive. Comme on dit dans le jargon de l'assistance publique, il en a chié. Vendu un vieux saltimbanque, il n'en peut plus. Le vieux décide d'appeler Pascal le grand frère à la rescousse.
Oh Rémi, tu me regardes que je te parle? Je suis pas comme le vieux, moi, tu me réponds pas, tu me moques de respect. Et moi, quand on manque de respect, je pète la gueule.
Mais
pourquoi tu vas pas chanter avec le vieux?
Il est trop ringard, il veut chanter que du Léo Ferré, du Georges Brassens, ça me saoule.
Bon voilà, là au moins tu t'expressionnes, c'est bien. Allez, viens avec moi dans la forêt, on va parler, tu vas me dire ce que tu veux faire. Et moi, tu vas voir, je vais voir s'il y a une solution pour toi. Bon, tu veux faire quoi dans la vie?
Bah, je vais être chanteur, mais chanteur à ma façon, un chanteur moderne, gagner du fric, me faire des meufs, prendre de la drogue, aller dans ta ratata, prendre encore plus de drogue.
Je crois que j'ai ce qu'il te faut. Allez, viens mon Rémi, viens t'asseoir avec moi sur le tronc d'arbre mort. Je vais t'inscrire à un programme qui va te faire tellement peur, qui va tellement te traumatiser que tu vas revenir en courant vers le vieux. Je vais t'inscrire à The Voice Kids.
Oh non, s'il vous plaît, pas ça.
Si, mon Rémi, si, il faut que tu saches que c'est que l'enfer de parler avec soprano.
Non, pitié.
Il faut que tu saches que la misère, ce que c'est d'avoir à passer du temps avec Patrick Fiori.
Non.
Je veux que tu sentes le vide en écoutant Jennifer.
Non, s'il vous plaît, non.
Je veux que tu chies dans ton froc en croisant le regard d'Amel Bent.
Oh. Ah. Ça.
Je veux que tu te sentes malade en respirant la laine des Nikos à l'œil gauche.
Je fais tout ce que vous voulez.
Tu restes avec le vieux? T'arrêtes de lui faire la misère?
Promis.
Juré,
pas de voice kid, pas ça.
Ah, c'est bon, t'iras pas. Allez, pleure, mon Rémi, pleure. Viens faire un câlin avec Pascal sur le trombone d'arbre mort. Allez, fais béco à Pascal.
Avec la langue?
Bah oui.
Non.
Sinon, c'est pas un vrai béco. Oh. Voilà, je crois qu'on tient un vrai truc.
Non.
Je crois qu'on a un vrai truc, les amis.
Un procès. Alors,
quel truc? Peut-être un procès, ça, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose, c'est évident. Allez, à demain.
Merci d'ailleurs.
Avec Nagui.
Rémi sans famille, un film que l'on vous recommande parce que il est touchant, il est intelligent, puis c'est une belle histoire. D'ailleurs, si elle traverse les siècles avec autant d'assurance et de versions différentes, il y a bien une raison, il y a un fond qui est fort, qui est humain et qui est surtout extrêmement bien interprété, que ce soit par vous deux, les filles, que ce soit Daniel Auteuil, encore une fois, Malone Paquin. C'est son premier film d'ailleurs, Malone, vous qui avez été très proche, Ludivine, puisque vous l'avez coaché à la place de la coach.
Oui, c'était son premier film, absolument. Il a été incroyable parce que le film reposait complètement sur ses épaules et il a été exemplaire, quoi. Très à l'écoute, à se remettre en question, toujours au service du film. Il a jamais fait un caprice. Il est idéal, ce gosse. Il est beau.
Rémi sans famille, c'est ce mercredi 12 décembre au cinéma. Parmi vos projets, Virginie Ledoyen, vous venez de tourner ou vous allez tourner, je ne sais pas, avec Valérie Donzelli.
Je viens de finir, oui.
Ça parle de quoi? Ça s'appelle comment déjà?
Ça s'appelle Notre-Dame. C'est une comédie
encore
enchantée.
Encore un roman adopté, c'est Hugo.
Non, une comédie enchantée.
Très bien. Et voilà. Vous savez quand ça sortira ou pas?
On vient de finir. On a fini la semaine dernière.
Un an encore de post-prod.
Ouais,
un peu moins.
Peut-être un peu moins.
Vous êtes Ludivine Sagnier à l'affiche de Lola et ses frères. On en avait parlé. On avait dit tout le bien et on le redit que nous pensions de ce film et avec Jean-Paul Rouve. Vous avez également récemment tourné Les Châtelains.
Oui.
Ça, c'est un film.
C'est un premier film belge avec Alban Lenoir.
De Véro Kratzborn. Voilà. Vous avez également tourné Un monde plus grand.
Oui, de Fabienne Berthaud avec Cécile de France.
Et là, vous y êtes quel personnage?
Et là, alors c'est Cécile de France qui devient chamane malgré elle et je joue sa sœur ultra cartésienne qui ne croit pas en les dimensions parallèles.
Ouch. Voilà. Vous êtes dans une série documentaire aussi, Kings.
Kings, c'est génial.
Ça, c'est top, ouais. Où ce sont des filles, en fait, qui se
travestissent.
Et qui parlent comme des mecs.
Bah, on essaye de vivre l'expérience, ouais, travesti en homme.
Et alors, ça donne quoi? Quel ressenti après tout ça?
Le ressenti, c'est que c'est tellement bon d'être une femme. Et d'ailleurs, cette semaine, il y a Mel Bent et Mel Habedia qui font leur épisode, c'est je vous le recommande vraiment.
Pour en revenir à Rémi sans famille, être dans un film comme ça d'époque, costume, on sent, parce que je sais pas si sur un tournage on se rend compte de faire justement un grand film au sens cinématographique du terme, comme nous on le reçoit sur plusieurs dizaines de mètres carrés de toile, on se rend compte, Virginie Doyen, quand on le fait le film, les costumes ça aide un peu.
Les costumes, c'est primordial, c'est ultra important, et puis le metteur en scène Antoine Blossier qui a fait un travail vraiment extraordinaire et notamment de préparation, avait une équipe, il a bossé 2 ans sur le film, tout était vraiment pensé et les costumes, chaque costume a une symbolique, alors vous ne la verrez pas nécessairement spectateur comme tel, mais ça a porté tout le film, que ce soit les décors, les costumes, et c'est vrai qu'on était dans un environnement ultra cinématographique.
Donc il a respecté tous les détails, même ceux dont on ne se rend pas compte, à l'image.
Et tant mieux d'ailleurs qu'on ne s'en rende pas compte. C'est ça aussi qui fait la richesse, je trouve, visuelle du film. Et que je trouve le film, moi, extrêmement beau.
Les paysages sont superbes. Je sais que vous avez tourné dans l'Aubrac, la campagne.
Incroyable. Avec la brume comme ça, qui survolait les plaines, c'était dingue. Et puis le soir, qu'est-ce qu'on mangeait bien.
On a noté pour Ludivine un film où elle chante et un film où elle mange bien le soir, par exemple, et un baiser avec un grand comédien, et c'est super, quoi.
Ouais, c'est vrai que là, je serais nickel.
Vous dites oui.
Ouais, je dis oui tout de suite.
Mais alors, quand vous allez écrire le vôtre et réaliser le vôtre?
Je suis pas réalisatrice, Nagui. Je sais
non,
que
vous... mais quand?
Ah, ben c'est
vous
pas.
Envie
non, pas pour l'instant, non. J'ai déjà pas mal de trucs à faire.
Non, mais il n'y a pas une envie à un moment d'être justement auteur et réalisatrice?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Virginie?
Ah, aucune. En tout cas, non, mais vraiment.
Pourquoi? Non, parce qu'on se rend compte.
On
pense à Jean-Paul Rouve, à Gilles Lelouch. On voit bien que lorsque des comédiens passent de l'autre côté de la caméra,
ça marche très bien, effectivement.
Ça dirige bien en plus.
J'aime encore beaucoup être interprète. Je me vois pas, et puis j'ai pas du tout l'impression d'avoir le cerveau configuré pour être metteur en scène, moi.
Mais non, vraiment plus. Moi, je vis avec un auteur réalisateur et je pense que je n'aurai jamais la moitié du quart de sa capacité de travail.
Ça s'appelle une déclaration d'amour déguisée, mais une déclaration d'amour. Après tous les garçons qu'elle a voulu embrasser dans l'émission, elle finit par un message d'amour pour son mec. C'est cool. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Absolument. Désolé pour les militants de la cause animale qui ont découvert ce matin l'absence totale de soutien de Virginie Ledoyen. Alors moi je dis bravo les militants, allez, tenez, venez déjeuner avec nous. C'est Nagui qui cuisine aujourd'hui. Au menu, c'est grillade de bébé chat, sushi de dauphin et flan de bébé phoque.
Ouais, bien sûr, végétarien.
Ouais, c'est ça. Désolé pour toutes les lectrices et lecteurs de Cosmo qui ont été surpris, voire vexés par le ton utilisé par Nagui pour parler de leur magazine favori. Ça va, c'est juste du mépris et du machisme.
C'est bien sûr.
Désolé pour Ludivine Sagnier, enfin, qui n'a pas eu, selon ses mots, beaucoup d'espace dans l'émission. Alors, vous devriez en parler avec Nagui, qui souffre exactement du contraire. Il prend trop de place. Peut-être qu'à vous deux, vous trouverez une solution, ou tout de moins un équilibre.
Merci beaucoup. Merci, mesdemoiselles.
Merci à vous.
Ludivine Sagnier, merci Virginie. Le doyen, c'est gentil. Demain, Stéphane Plaza sera notre invité. Tout de suite, voici les carnets de campagne, puisqu'il est 12h30 sur Inter. Bonne journée.